Kiosque Magazine.
Jeudi 12 février, il neige sur Montréal, une neige folle que j'ai du mal au mois de février à appeler de la belle neige. Au mois de décembre, j'aurais trouvé ça magique, mais au mois de février, je trouve juste ça épuisant. Et puisque j'en suis à parler du mois de février, eh bien sachez que le 12 février, c'est deux jours avant le 14 février. Le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Dans cette émission, nous allons brasser des milliards de dollars, jouer avec des centaines de milliers d'emplois. Mais les affaires vraiment importantes, vous les trouvez à la table du petit déjeuner le matin. Alors, je vous en prie, planifiez votre 14 février. Et un petit message en passant pour nos auditeurs catholiques. Le carême ne sera pas commencé. Vous n'aurez pas de choix à faire cette année. Alors lâchez-vous pour le chocolat. De quoi sera-t-il question dans cette émission? Eh bien, nous allons parler de retraite. Tiens, ça fait des années qu'on vous dit que vous n'avez pas assez épargné pour votre retraite. On va voir si c'est vrai. C'est pas aussi évident que ça. Le scandale de la semaine, la banque HSBC et ses comptes cachés en Suisse. La Chine, le moyen d'éviter d'en parler. La Chine, où semble-t-il, tous les voyants sont au rouge et où on craint une sérieuse dégringolade. On parle aussi d'immigration et d'adéquation entre l'immigration et le marché de l'emploi québécois. De sport olympique, tiens, puisqu'on va voir que c'est une grosse business pour les fédérations internationales que de faire partie ou non des Olympiques. Mais d'abord et avant tout, de santé et de l'approche affairiste et consumériste du monde de la santé, telle que décriée par Francine Pelletier dans les pages du Devoir. Et tout ça, ça commence dans quelques instants. Or donc, comme je vous le disais, Francine Pelletier, dans les pages du Devoir, décrit la façon dont on approche l'administration, la gestion de la santé au Québec actuellement. Ça nous donne un texte intitulé « La méthode Toyota », c'est paru le 11 février. Vous vous demandez peut-être d'où vient cette rage de réformer le système de santé à coups de hache et de bâillon? Pourquoi il faut abolir les 18 agences de santé, réduire 182 centres de santé et de services sociaux à seulement 33, imposer des quotas aux médecins et concentrer les pouvoirs dans les mains du docteur No, notre ministre de la Santé, Gaétan Barrette? Elle est où l'inspiration pour une réforme aussi massive, pour ne pas dire contestée? Et pourquoi faut-il coller des ingénieurs aux fesses des infirmières afin de mesurer leurs moindres gestes? Vous venez de faire trois pas de trop, là, rapportait récemment la présidente de la Fédération, Régine Laurent. Les infirmières se font dire comment optimiser leurs mouvements par des gens qui n'ont jamais soigné personne. Et saviez-vous que les couches, les lingettes et le savon de bébé, les serviettes hygiéniques et jusqu'aux Kleenex ne sont plus fournis lors d'accouchements, du moins dans les hôpitaux du CHUM? Avis aux femmes enceintes. Certains de ces articles sont désormais soutelés et ne sont dispensés que pour des femmes qui en ont urgemment besoin. Bienvenue dans le monde de la gestion minceur, le Lean Management, aussi connu comme la méthode Toyota. L'actuel ministre de l'Éducation, Yves Bolduc, a été le premier à introduire cette notion lorsqu'il était à la santé. Ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec les gens pour éliminer les processus inutiles, disait-il en 2008. La chasse au gaspillage en temps, en argent ou en procédure est le mot d'ordre de cette nouvelle philosophie managériale. Mais une méthode inspirée d'une chaîne de production automobile peut-elle vraiment servir d'inspiration aux soins prodigués aux malades? Et comment, disent les convertis? Depuis un projet pilote au Seattle Virginia Mason Medical Center en 2008, la méthode d'en faire plus avec moins s'est répandue dans plusieurs hôpitaux aux États-Unis ainsi qu'ailleurs en Europe et en Australie. Ici au Québec, le Lean Management a été introduit dans trois CSSS et au CHU à Québec en 2008 à la demande de M. Bolduc. Il s'agissait, dans un premier temps, de découper tout le processus de soins, un peu comme on découpe un saucisson en rondelles. Si j'entre voir un patient, la prise de température est considérée comme étape 1, le soluté, étape 2, et ainsi de suite, explique Régine Laurent. Évidemment, ce n'est pas comme ça qu'une infirmière travaille. Tout étant codifié d'avance, l'infirmière qui déciderait, en voyant l'allure de son client, ainsi nomme-t-on le patient désormais, de lui administrer un soin non prévu doit ensuite se justifier en rédigeant un rapport. Pour les bureaucrates de ce monde, le superflu est partout, sauf évidemment dans la paperasse. Mais ce n'était qu'une première phase. La deuxième a été introduite en 2012 par le ministre Bolduc toujours et consistait à minuter le travail. Pour une relation d'aide dite de premier niveau, le temps alloué était, disons, 15 minutes. Une relation deuxième niveau, 10 minutes, poursuit la présidente de la FIQ. Mais ça n'a aucun sens. Voulez-vous bien me dire ce que ça veut dire une relation d'aide de premier niveau? C'est la multinationale de gestion ProAction qui a été engagée par le ministère pour commencer à implanter la nouvelle médecine minute au Québec. Le travail se poursuit évidemment aujourd'hui sous la férule du redoutable Dr Barrette, qui se garde bien de parler de méthode Toyota, mais qui privilégie lui aussi les mêmes objectifs. Quantification, optimisation, réduction des coûts. Le financement à l'activité, le troisième projet de loi que nous promet bientôt l'actuel ministre de la Santé, consiste justement en la troisième phase de ce vaste programme. On découpe en minutes. Ensuite, on décide combien ça vaut. Comme dans n'importe quelle chaîne de montage, la rentabilité est à l'honneur. Dans Lean Management in Hospital, Key Factor for Successful Implementation, 2011, on ne se gêne pas d'ailleurs pour détourner le serment d'Hippocrate. Je dirigerai le régime des malades à leur avantage, pour vouloir dire avantage économique. Plusieurs voient dans cette obsession de quantifier ce qui est foncièrement humain, l'idée de venir en aide, de soigner quelqu'un, le signe d'une privatisation imminente. Je doute que le gouvernement Couillard ose aller jusque-là, mais tous ces bouleversements s'inscrivent dans un contexte plus large, c'est sûr, celui de battre en brèche l'État-providence, cet omniprésent nounou qui nous mène au bord de la faillite. Attachez vos tucs. La bataille s'annonce longue entre le gouvernement et tous ceux qui voient dans cette mentalité comptable une rupture du contrat social. Et bon, évidemment, vous l'aurez deviné, j'en suis plutôt. C'est assez effrayant de penser que bientôt, une infirmière va peut-être être obligée de se demander si elle a le temps de sourire à son patient, si elle a le temps de lui dire bonjour. Il s'agit de savoir finalement, est-ce qu'on soigne les gens avec humanité ou est-ce qu'on soigne les gens à moindre coût possible? Bref, est-ce que c'est une machine ou une mécanique humaine? Et je doute que les gens deviennent infirmiers, infirmières, pour finalement faire partie d'une chaîne de montage. Ah, finance, 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 et particulièrement finance de retraite. Une petite nouvelle comme ça avant d'aborder le sujet principal. Il y a une étude à Calgary qui est sortie récemment. Il faut toujours... Bon, je prends toujours avec un grain de sel les études économiques qui sortent de Calgary. Je vous expliquerai éventuellement pourquoi. Donc, l'étude disait qu'au Canada, la fiscalité redistributive est particulièrement avantageuse pour les gens de plus de 65 ans à cause, évidemment, des régimes de pension, des besoins un peu moindres des personnes retraitées. Et en bout de piste, donc, si on fait une moyenne globale pour le Canada, parce que l'étude s'est pas penchée, c'est-tu mieux au Québec, c'est-tu mieux en Alberta ou à l'Île-du-Prince-Édouard, donc, c'est le grand gagnant de notre fiscalité distributive, c'est le retraité, ou enfin la personne de plus de 65 ans. Bon, l'étude en question, pour moi, est à prendre avec un grain de sel parce que ses auteurs disent que c'est déjà bien assez distribué, la fiscalité. Moi, personnellement, je pense qu'on pourrait aller encore plus loin. Alors, j'imagine que dans la tête d'un Albertain, le Québec, c'est déjà une partie de l'enfer ou l'antichambre de l'enfer fiscal. Bon, j'arrête là pour ce sujet-là et je passe à mon sujet principal, qui est les fonds de retraite. Bon, c'est l'époque de l'année où tout le monde veut vous vendre des REER, vous dire de cotiser à votre solide, de penser au jour où vous allez être vieux, ce qui risque de durer très, très longtemps et éventuellement de vous faire manquer d'argent. C'est une angoisse normale, on joue largement dessus pour aller chercher des capitaux. Il s'agit de savoir maintenant, est-ce que les Canadiens épargnent assez ou trop ou juste assez? Eh bien, les deux grands journaux se sont penchés sur une étude. Bien, les deux grands journaux, je parle du Devoir et de la Presse. C'est très méchant pour le Journal de Montréal, ce que je viens de dire. Je m'excuse, Journal de Montréal, voilà. La Presse et le Devoir, donc, se sont penchés sur une étude de Kinsey, de McKinsey Company, sur le financement des retraites. Et c'est drôle parce qu'ils ont fait à peu près le même titre tous les deux. J'ai retenu le texte de Stéphanie Gramont, « Surfait, la crise de retraite », publié le 11 février. Comme la tempête de neige historique qui a finalement épargné New York le mois dernier, se pourrait-il que la crise de la retraite qu'on appréhende depuis des années n'ait jamais lieu? C'est l'impression que donne une étude diffusée ce matin par McKinsey Company. Après avoir sondé 12 000 ménages actifs et retraités, la firme de consultation conclut que la perception qu'il existe une crise de la retraite est largement exagérée. En réalité, une grande majorité des Canadiens auront suffisamment d'épargne pour maintenir leur niveau de vie à la retraite. McKinsey n'est pas la seule à soutenir cette thèse. D'autres études ont déjà statué que le manque d'épargne est moins grave qu'on ne le craint et qu'une frange de la population épargne même trop en vue de la retraite. Ces experts sont-ils des climato-sceptiques de la retraite? Sont-ce plutôt les médias, moi la première, écrit Mme Grammont, qui ont crié au loup pour rien? Est-ce que l'inquiétude des épargnants au sujet de la retraite vient des institutions financières qui ont trop tapé sur le clou à grand renfort de campagne REER? Chose certaine, les sociétés financières sont les premières à dire qu'il n'y a pas de problème généralisé maintenant, que le manque de préparation en vue de la retraite est un enjeu de société majeur et que l'État est appelé à s'en mêler. Bien sûr, une intervention du gouvernement, bonification de la RRQ, création du RVER, création d'une rente de longévité, etc., les priverait d'un marché extraordinaire ou les forcerait à réduire leurs frais de gestion. Mais jetons un coup d'œil sur l'étude de McKinsey qui conclut que 4 ménages canadiens sur 5, 83% en fait, vont pouvoir maintenir leur niveau de vie à la retraite. Voilà qui est encourageant. Le pourcentage est encore plus élevé chez les travailleurs qui bénéficient d'un régime de retraite à prestations déterminées, preuve qu'il est un excellent outil pour assurer la sécurité de la retraite des travailleurs. Dommage que les employeurs privés les aient abandonnés sans que personne lève le petit doigt. Les personnes à revenus modestes n'ont pas trop à s'en faire non plus, car les régimes gouvernementaux, la pension de vieillesse, RRQ, etc., leur permettront de remplacer plus de 80 % de leurs revenus. Cela ne veut pas dire qu'elles auront une retraite dorée. Au contraire, certaines se retrouveront dans la pauvreté, en particulier celles qui subissent une baisse de revenus après le décès de leur conjoint. Mais ceux qui vont vraiment voir leur niveau de vie baisser sont les jeunes qui ont un salaire moyen ou élevé et qui travaillent dans le secteur privé. Plusieurs n'ont pas du tout de régime de retraite et n'épargnent pas assez de leur propre chef. Résultat, la moitié d'entre eux frapperont un mur à la retraite, comme on peut s'en douter. Il est plus étonnant d'apprendre que beaucoup de travailleurs qui ont accès à un régime de retraite avec leur employeur ne l'utilisent pas ou trop peu. En fait, le tiers des gens qui ont accès à un régime de retraite à cotisation déterminée ou à un REER collectif avec leur employeur n'y font pas la moindre contribution. Et une personne sur 10 y verse moins de 5 % de son salaire annuel en tenant compte de la cotisation de l'employeur et de l'employé. Trop peu. Le quart d'entre elles devront réduire leur rythme de vie à la retraite ou travailler plus longtemps. Malheureusement, ces chiffres démontrent qu'une portion importante des travailleurs se défile lorsque l'épargne n'est pas obligatoire. Cela n'augure rien de bon pour le régime volontaire d'épargne retraite, la solution mise de l'avant par Québec pour combler le déficit d'épargne retraite. Globalement, près d'un Canadien sur 5, 17 % donc, risque de manquer d'argent le moment venu, un chiffre qui reste préoccupant. Mais toutes ces simulations, oui, reposent sur des critères subjectifs. D'abord, combien faut-il pour maintenir son niveau de vie à la retraite? Les experts les plus optimistes remettent en question la règle générale, voulant qu'on doive prévoir 70 % de ses revenus pour maintenir son rythme de vie à la retraite. En fait, 50 % serait suffisant, peut-être même 35, soutiennent des actuaires bien en vue. Pour réduire autant ses dépenses, il faudrait que les astres soient drôlement bien alignés. Les enfants quittent le nid familial, l'hypothèque est remboursée, pas de voyage ni d'activités coûteuses. Selon Statistique Canada, les retraités dépensent en moyenne 67 % de ce qu'ils dépensaient lors de leurs dernières années sur le marché du travail. La majorité a réduit sa consommation par choix à 53 % plutôt que faute de moyens, 33 % ajoute McKinsey. Il semble donc que les retraités actuels ne s'en tirent pas trop mal. Mais avec l'érosion des régimes de retraite, qu'en sera-t-il des retraités dans 10, 20 ou 30 ans? 3 Canadiens sur 5 craignent de manquer d'épargne retraite. Malgré cette anxiété, la moitié des Québécois âgés de 35 à 49 ans n'ont jamais calculé combien ils devaient épargner pour la retraite selon la Régie des rentes du Québec. Une petite consultation leur ferait le plus grand bien. En calculant la valeur de leur maison dans leur plan de retraite, les ménages pourraient aussi faire baisser leur angoisse d'un cran. En ajoutant 30 % de la valeur de la résidence dans les calculs, la proportion des Canadiens bien préparés pour la retraite atteindrait les 87 %, estime McKinsey. D'accord. Mais ce ne sont pas tous les retraités qui souhaitent déménager. Et l'idée de puiser tranquillement dans sa maison pour vivre à la retraite au moyen d'une hypothèque inversée répugne à bien des aînés qui se sont fait un devoir de rembourser leurs dettes au plus vite. Bref, c'est pas aussi dramatique qu'on le pensait, mais c'est pas une raison pour ne pas épargner.
Bien eu, je t'ai perdu. Tu m'as jeté par-dessus bord. Carottes vertes que tu m'avais offert. Pendu au cou d'un autre, à l'heure qu'il est, je t'imagine.
Urbain Desbois, qui nous parlait de son foulard, plus précisément de son foulard carotté vert. Et puisqu'il est question de carotter quelque chose, bien, je vais vous parler d'un technicien. Un technicien franco-italien ou italo-français, enfin, il y avait les deux nationalités, mais toujours-t-il qu'il travaillait en Suisse dans une banque qui s'appelait HSBC, en fait, filiale de la grande banque britannique HSBC, la filiale suisse. Il travaillait là pendant la dernière décennie. Il a travaillé quelques mois, donc aux alentours de 2006. Et il a piqué des données. Voilà, c'est pas très gentil. Il a essayé de les vendre au Liban, il n'a pas trouvé d'acheteur. Finalement, il les a remis au gouvernement français quand il s'est aperçu que la police suisse était après lui. Et récemment, Le Monde a reçu une clé USB avec des tonnes de données bancaires sur des comptes en Suisse durant la dernière décennie. Des tonnes de données compromettantes. Et évidemment, pour un journaliste, vous pensez bien, c'est Noël, c'est le pactole, c'est le bonheur. Ils ont partagé ça avec le même consortium de journalistes qui avait étudié les fuites de Wikileaks. Le journal en question, c'est Le Monde. Et pour mémoire, tiens, pour les punir de ce scoop-là. Jusqu'à maintenant, il y a deux des trois actionnaires du Monde qui ont trouvé ça pas correct qu'on parle de l'argent caché en Suisse en divulguant l'identité des personnes. Mais toujours est-il que toute la presse en a parlé toute la semaine. Pour vous donner une idée de l'ampleur du scandale, je choisis un texte de Serge Truffaut publié le 11 février dans les pages du Devoir. Pousse au crime. Il y a deux mois, Le Monde découvrait le détail de la fraude fiscale ciselée par un État, le Luxembourg, au bénéfice des compagnies, des mastodontes de l'économie monde. Aujourd'hui, nous voici saisis par l'usage massif par la banque britannique HSBC des perversités financières conçues à l'ombre du massif suisse pour le bien-être de l'individu très particulier car riche et amoral. Bref, la bête se goinfre encore et toujours du sang des autres. Au début de l'année 2014, le journal Le Monde a reçu une clé USB dans laquelle étaient consignées les identités de 100 000 détenteurs de comptes de la filiale suisse de HSBC, ainsi que les montants camouflés, et donc les transactions qui leur sont inhérentes. L'énormité du dossier ainsi que la diversité géographique qui lui est propre ont convaincu ce quotidien de partager avec une soixantaine de médias les informations colligées par un ex-informaticien chez HSBC, oui, en Suisse, son identité, Hervé Falciani. La table ayant été mise, passons au vif, c'est le cas de le dire, du sujet. Entre le 9 novembre 2006 et le 31 mars 2007, autrement dit en 5 mois et seulement 5 mois, 180 milliards de dollars ont convergé vers la bien nommée HSBC Private Bank. La rapidité avec laquelle un montant aussi gigantesque, un montant égal à plus de la moitié de la dette grecque, a déménagé de X nombre de pays vers Genève est le reflet d'une réaction très vive, car empreinte d'une énorme gourmandise de la part de la direction de HSBC. On s'explique. Lorsque la haute direction de la plus intercontinentale des banques a appris que la Commission européenne introduirait une taxe sur la fiscalité de l'épargne le 1er juillet 2005, la direction en question et son président, Stephen Green, ont ordonné à l'édification immédiate de ce qu'il faut bien nommer une multinationale de la fraude fiscale. Mais encore, le siège de HSBC a sommé tous les dirigeants de ses filiales répartis dans 80 pays de faire l'inventaire des clients les plus fortunés et de les diriger de manière qualifiée d'agressive vers le bras suisse de cette banque née à la faveur de la guerre de l'opium dans le dernier quart du 19e siècle. Comme quoi, osons dire, le blanchiment de l'argent sale est dans l'ADN de HSBC. À preuve, après avoir recyclé les milliards des cartels mexicains et argentins de la drogue par le biais de HSBC à Miami, son pendant suisse a blanchi l'argent des truands, des fraudeurs, des sportifs, des artistes. Elle a érigé des paravents au bénéfice des grandes fortunes et des riches héritiers. Elle a poussé l'odieux jusqu'à fermer les yeux sur la circulation de sommes colossales entre des princes saoudiens et Al-Qaïda. Bref, HSBC a tiré profit à grande échelle des trous noirs de la réglementation consécutifs, au décloisonnement des institutions financières commandées dans les années 80 par Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Brian Mulroney et quelques autres. Oui, le décloisonnement. Lorsqu'on ajoute à ce scandale celui du LuxLeaks, celui de la vente de produits frelatés, les subprimes, celui de la notation assassine et non loufoque de Moody's et consorts, celui des millions de primes accordées à la suite du sauvetage public de Merrill Lynch et AIG, celui de la manipulation des taux de change en général et du LIBOR en particulier, et bien d'autres qu'on oublie, on est en droit de formuler l'hypothèse suivante. Est-ce que l'aléa moral ne serait pas la conséquence du laisser-aller induit évidemment par le décloisonnement, par ce qui fut en fait la destruction des frontières édifiées au lendemain de la crise de 1929 entre les banques, les fiducies, les assurances et les valeurs mobilières? Car ce sont bel et bien les banques qui ont fait main basse sur les fiducies et autres. Ce faisant, les HSBC de ce monde se sont dotés d'expertise et de réseaux géographiques si étendus qu'elles ont accouché de ceci, une concentration jamais vue de capital dans l'histoire. Au ras des pâquerettes, cela s'est traduit par ceci. Ces banques sont si gigantesques qu'elles font partie de la liste des entreprises trop grosses pour que les États les laissent tomber. « Too big to fail ». Bref, elles jouissent plus que tout autre et de manière diverse de l'aléa moral. On se souvient clairement qu'à la fin des années 80, les présidents des compagnies québécoises d'assurance, le groupe Commerce, les coopérants, l'Industrielle Alliance et autres, ainsi que les dirigeants de fiducie, notamment ceux du Trust général, avaient lancé une mise en garde contre le décloisonnement, en prévenant que les excès lui sont inhérents. Bref, ils furent lucides. Les excès. Dire que la dette grecque est celle de bien des pays, l'austérité et son cortège d'amputations sur le flanc des services sont contenus dans les chiffres de HSBC, UBS et autres, n'est en rien démagogique. Ces derniers sont des prescripteurs du crime sous toutes ses formes. Et là, il faut voir effectivement dans cette condamnation du décloisonnement des activités bancaires, puisqu'auparavant, les banques étaient tenues à ne pas se mêler de certaines activités économiques, une des causes de, finalement, le crash de 2008, ou alors du chômage endémique qu'on connaît aujourd'hui. Et puisqu'il faut lier ce type de criminalité économique-là à un autre drame, eh bien, sachez qu'il y a une étude qui est parue cette semaine, une étude qui chiffre à 45 000 le nombre de suicides imputables au chômage. J'ai le temps d'en placer encore une avant la pause et je le fais immédiatement. Il s'est passé quelque chose en décembre 2014 au Québec, quelque chose qu'on n'avait pas connu depuis longtemps, quelque chose qu'on doit notamment à la baisse du prix de l'essence et donc de la devise canadienne. Eh bien, sachez que notre balance commerciale a été excédentaire de 1 milliard de dollars en décembre et ça s'était produit, pas produit depuis des années au Québec.
Écoutez Kiosque Magazine.
Deuxième demi-heure, donc, et on commence tout de suite. Pourquoi attendre? En vous parlant de Chine, on aime bien parler de Chine. En fait, je fais un deal cette semaine avec vous. Je ne vous parle pas de la Grèce, je ne vous parle pas de pétrole, ou en tout cas pas trop, mais je ne peux pas faire les trois, alors je vais vous parler de la Chine. Voilà. Pourquoi? Parce que Richard Dupol, dans les pages de la presse, le 9 février, a signé un texte. « Chine, les voyants rouges se multiplient ». Texte qui parle par lui-même, comme vous allez le voir. Les derniers chiffres le confirment. La grosse machine chinoise accumule les ratés, laissant croire que la deuxième économie mondiale ralentira davantage en 2015. Tant la production des usines que le crucial marché immobilier montrent des signes d'essoufflement. Même les entreprises chinoises et les investisseurs étrangers ont un pied sur le frein et misent de plus en plus d'argent hors du pays. Le Fonds monétaire international table désormais sur une croissance économique de 6,8% cette année après le décrochage à plus 7,4% l'an dernier, la pire performance en 25 ans pour l'empire du milieu. Face à autant de voyants rouges au tableau de bord chinois, le prix Nobel et économiste réputé Paul Krugman ne cache pas ses sentiments. « La Chine me fait peur », a-t-il laissé tomber lors d'un important forum asiatique récemment. Pour lui, Pékin fait face à des défis énormes pour reconfigurer et soutenir une économie en perte de vitesse. À cet égard, voici un aperçu des derniers rapports qui inquiètent tant les experts. Sortie de capitaux. Cet indicateur, publié mercredi, en dit long sur l'humeur des milieux d'affaires étrangers et chinois. Au quatrième trimestre de 2014, la Chine a encaissé une balance déficitaire des flux de capitaux, du jamais vu en 17 ans. En clair, cela signifie que la différence entre les entrées et les sorties de fonds au pays a été négative, s'établissant à moins 91 milliards américains, selon les statistiques officielles. Deux phénomènes expliquent cette tendance. D'une part, les entreprises chinoises accélèrent les acquisitions à l'étranger pour diversifier leurs marchés. D'autre part, les doutes relatifs à l'économie freinent l'enthousiasme des investisseurs étrangers pour qui l'aventure chinoise a perdu de son attrait. Les usines en marche arrière. On a bien vu les usines chinoises réduire la cadence en 2014, mais voilà qu'elles passent carrément en marche arrière. Selon le Bureau national des statistiques, l'indice PMI du secteur manufacturier est tombé en janvier à 49,8 points, donc sous la barre des 50 qui marque la croissance. La banque HSBC, encore elle, montre un portrait similaire avec son propre indice manufacturier. Plusieurs indicateurs indiquant une dégradation. Les commandes intérieures, la demande mondiale, les prix de vente à la baisse. Les dettes. La Chine a annoncé mercredi une nouvelle mesure, une énième depuis un an, pour requinquer son économie en réduisant les réserves obligatoires des banques. La tactique vise à stimuler le crédit. Or, le même jour, la firme américaine McKinsey, encore elle aussi, a publié un rapport accablant indiquant que la dette globale privée et publique de la Chine a quadruplé de 2007 à 2014, passant de 7 000 à 28 000 milliards de dollars américains, soit 282% du produit intérieur brut chinois. Cette explosion, est liée aux prêts hors du secteur bancaire réglementé, le shadow banking, et à la spéculation immobilière. Est-ce que la Chine peut s'endetter davantage? L'immobilier. Après des années de croissance à deux chiffres, les prix de l'immobilier dans 68 des 70 principales métropoles de la Chine accusaient en décembre une baisse moyenne de 4,3% sur un an, un quatrième repli consécutif. Certes, les ventes étaient en hausse, mais le Centre d'études spécialisées CRIC à Paris note que les stocks de logements invendus restent excessifs dans 21 des 23 grands centres urbains. Et finalement, la consommation. Pour rééquilibrer l'économie en délaissant un modèle axé sur l'exportation et les infrastructures, Pékin veut faire de l'innovation et de la consommation les moteurs du pays. Mais les dépenses des ménages décélèrent, étant passées d'une hausse annuelle de 15% en moyenne de 2008 à 2013 à un gain estimé de 10% l'an passé. La firme britannique de recherche Kantar prévoit que la hausse des ventes de biens courants, tels les produits pour la santé, les vêtements et autres, glissera à plus 5,5% en 2015 contre plus 15% il y a 3 ans. Que dit Paul Krugman face à un tel bilan? Je serais surpris s'il n'y a pas une sévère récession éventuellement, alors que la Chine tente de changer. C'est inquiétant. Ça l'est pour notre économie aussi, qui est largement axée vers la fourniture de matières premières vers les Chinois, notamment le pétrole, évidemment, les mines, la nourriture, toutes des choses qu'on vend en Chine en échange de produits manufacturés. Par ailleurs, il est souhaitable qu'éventuellement l'économie chinoise se réoriente vers sa consommation, son immense marché intérieur, et s'alimente comme l'a fait l'économie américaine pendant des années, des décennies, et le fait actuellement, vers ses propres consommateurs pour se stimuler elle-même. Mais bon, là, c'est une vision de mon esprit. Ah, l'adéquation entre l'immigration et l'employabilité, entre notre marché de l'emploi et ces gens qu'on fait venir d'ailleurs pour occuper des postes chez nous. Vous rappelez-vous du temps où on disait d'un immigré que c'était un voleur d'emploi? Eh bien, sachez qu'on le dit encore un peu partout à travers le monde, dans à peu près toutes les langues qui existent par rapport aux nouveaux arrivants, ce qui est complètement ridicule parce que quelqu'un qui arrive ici, c'est quelqu'un qui dépense, qui consomme, qui fait sa part dans l'économie. Il est normal qu'il ait sa part de l'économie également, mais bon. Éric Desrosiers, dans les pages du Devoir le 7 février, a signé un texte dans la série des Perspectives, un texte intitulé « Ce problème qui n'est pas nommé ». Le débat sur le renouvellement de la politique d'immigration et sa capacité d'aider à réduire le problème de rareté de main-d'œuvre au Québec occulte largement un facteur important, sinon le plus important dans notre difficulté à intégrer ces travailleurs d'ici et d'ailleurs. Les conclusions publiques menées par le gouvernement Couillard sur le renouvellement de la politique québécoise en matière d'immigration battent leur plein depuis la semaine dernière. Qualifiée de « moment historique » par la ministre de l'Immigration, Kathleen Veil, la démarche se veut un appel à agir collectivement pour défoncer les barrières qui nuisent à l'intégration des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles, en particulier dans le domaine de l'emploi. L'enjeu est notamment important dans un contexte de rareté grandissante de la main-d'œuvre avec le vieillissement de la population, surtout quand on sait que le taux de chômage de la population immigrée était de 11,2% en 2011 contre 7,2% pour l'ensemble des Québécois et 6,5% pour la population native. L'une des solutions, qui semble faire consensus est qu'il faudrait assurer un meilleur arrimage entre les critères de sélection des nouveaux venus et les véritables besoins de l'économie québécoise. On accueillerait trop de diplômés universitaires et pas assez de techniciens qualifiés au goût des entreprises. Dans le secteur manufacturier, les emplois sont très spécifiques et requièrent un savoir-faire et une expérience que seules les entreprises peuvent correctement reconnaître, a affirmé Éric Tétrault des manufacturiers exportateurs du Québec, tout en ajoutant que l'une des choses dont on manque le plus est des travailleurs manutentionnaires. Contrairement à d'autres, le secteur des affaires en a unanimement appelé à un relâchement des critères de sélection basés sur la maîtrise du français, en même temps qu'une plus grande valorisation de l'anglais avant d'aller retrouver la grande entente générale pour une meilleure reconnaissance des diplômes étrangers. Ce discours sur la nécessaire adéquation entre la formation de la main-d'œuvre et les véritables besoins des entreprises est aussi souvent évoqué lorsqu'il est question de l'école au Québec. Outre le fait qu'on lui reproche de rétrécir l'éducation à un rôle étroitement utilitariste, il y a aussi le problème de la capacité des autorités gouvernementales et même des entreprises elles-mêmes de savoir d'avance ce dont elles auront exactement besoin dans le futur. Les entreprises embauchent souvent des travailleurs surqualifiés parce que cette main-d'œuvre est disponible, mais aussi parce que les tâches se complexifient sans cesse, disent des experts à un colloque organisé sur la question par l'Institut de la statistique du Québec ce printemps. Et comme elles ne savent pas ce qui les attend, elles préfèrent pouvoir compter sur des employés mieux à même de s'adapter. De plus, la surqualification n'est pas toujours un problème, notaient ces mêmes experts. Elle sert souvent aux jeunes travailleurs, comme aux nouveaux arrivants, à apprendre les us et coutumes de leur terre d'accueil et à acquérir de l'expérience professionnelle. Reste quand même tous ces immigrants qui n'arrivent pas à se trouver un emploi à la hauteur de leur diplôme, même après une période normale d'adaptation. Une analyse fine des données par les chercheurs Jacques Ledan et Alain Bélanger de l'INRS a montré que le principal facteur explicatif n'est pas l'origine étrangère du travailleur ni son diplôme, mais la couleur de sa peau. Une fois toutes les variables isolées, comme la langue, l'âge, le sexe ou l'expérience professionnelle, on voit que les principaux écarts avec la majorité de la population québécoise se trouvent dans l'ordre chez les Philippins, les Noirs, les Latino-Américains et les Sud-Asiatiques. Une étude de la Commission des droits de la personne a fait une démonstration à la fois éclatante et déprimante de cette discrimination des minorités visibles en 2012. Elle a soumis à des employeurs québécois des candidats fictifs dont les profils étaient en tout point les mêmes à l'exception de leur nom. Les Tremblay et les Bélanger se sont révélés avoir au moins 60% plus de chances d'être invités à un entretien d'embauche que les Sanchez, Ben Saïd et Traoré. Ces derniers ont même été, une fois sur trois, purement et simplement ignorés. Le taux de chômage des immigrés en 2011 baissait de 18,5 à 11,2, puis à 8,7 s'ils étaient au pays respectivement depuis moins de 5 ans, depuis 5 à 10 ans ou depuis plus longtemps. Le taux de chômage des membres des minorités visibles nés au Québec était de 12 %. Presque personne n'a parlé du problème de racisme lors des consultations publiques des derniers jours, à part la Commission des droits de la personne. Il y a une grande préoccupation par rapport à la deuxième génération d'immigrants qui se sent exclus de la société québécoise, a justement admis Kathleen Weil, citant le cas de la communauté noire anglophone, qui est peut-être la communauté qui souffre le plus d'exclusion. On a beaucoup dit depuis des mois combien il est important d'expliquer aux nouveaux arrivants les valeurs fondamentales sur lesquelles souhaite se bâtir le Québec. Nous devrions peut-être nous les rappeler à nous aussi de temps à autre. Et oui, c'est encore bête, en 2015, le principal facteur d'exclusion au Québec, ça reste la couleur de votre peau.
On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part. Être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Les oiseaux de passage, ils savent où sont leurs nids, qu'ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux. Ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part, être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part. Je suis né quelque part. Je suis né quelque part. Laissez-moi ce repère où je perds la mémoire.
Être né quelque part par Maxime Le Forestier, un titre qui a récemment été repris par Trio et qu'on entend beaucoup à la radio. Un choix musical que j'ai un peu imposé à Rémi Hermoso qui assure la direction de cette émission, la mise en onde, bref, qui a le pouvoir et les pitons sous la main. Alors voilà, merci Rémi. Ça nous amène à notre dernier long sujet pour aujourd'hui, les Olympiques. Pourquoi je vous parle des Olympiques? Notamment parce qu'à Québec, on commence à reparler éventuellement d'une candidature pour les les Jeux olympiques d'hiver. Ça serait la troisième. On se rappelle que la dernière a échoué devant Salt Lake City, qui avait acheté des membres du Comité international olympique, et les cas de corruption sont avérés, c'est clair. Salt Lake City, donc, pas Salt Lake City, Lake Placid fait des appels de phare pour dire « Hey, on a une belle pente de ski, on aimerait ça que ça serve une troisième fois pour la descente olympique et on aimerait organiser les Jeux avec Québec. » Pendant ce temps-là, Québec, elle se dit « Ben, on va avoir un nouvel amphithéâtre, un colisée, on va être super bien équipé pour organiser les Jeux à peu de coûts. » Bref, c'est quelque chose, vous allez voir, dans les prochaines années, là, une fois que la mousse va être un peu retombée sur le nouvel amphithéâtre, c'est quelque chose que Régis Labombe va probablement mettre de l'avant. Mais bon, là, c'est de la prospective, c'est un commentaire qui n'engage que moi. Ceci dit, aux Olympiques, faire partie des Olympiques, être une fédération d'un sport qui finalement est présenté aux Olympiques, est-ce que c'est important? Eh bien, oui. Éric Bernaudeau de l'agence France Presse s'est penché sur le sujet. La tentation d'entrer au programme olympique. Encouragé par les réformes du président du Comité international olympique, Thomas Bach, de nombreux sports, tels le squash, l'escalade ou le wushu, rêvent d'entrer au programme des Jeux ou d'y revenir, comme le baseball et le softball pour le prestige, mais aussi pour l'argent. En août 2016, le CIO décidera d'ajouter ou non de nouveaux sports soumis par Tokyo, la ville hôte, au programme des Jeux d'été 2020. Avant cela, le comité d'organisation japonais a jusqu'à septembre prochain pour proposer de nouvelles disciplines, a annoncé le vice-président du CIO, l'Australien John Coates, en visite dans l'archipel. Les sports candidats à une entrée ou à une rentrée au programme font donc flèche de tout bois, car au-delà de l'image de marque, l'enjeu financier est de taille. Un tiers des droits de télévision des Jeux sont en effet versés aux 28 fédérations internationales de sports olympiques d'été et aux 7 de sports d'hiver. Ainsi, 295 millions de dollars américains ont-ils été redistribués après les Jeux olympiques de Pékin en 2008 et 515 millions après ceux de Londres en 2012. Pour les petits sports, l'enjeu financier d'une présence aux Jeux est énorme, explique Callum Murray du groupe SportCall, qui analyse le marketing sportif. Pour certaines fédérations, la manne olympique représente la moitié de leurs revenus. Le label olympique est aussi, dans de nombreux pays, synonyme d'aide publique accrue. L'importance des Jeux n'est pas seulement financière, observe cependant Tom Dillon, secrétaire général de la Fédération internationale de tir à l'arc. Depuis Londres 2012, où les épreuves ont été modernisées, le nombre de nos licenciés a augmenté de 25 %. Grâce en plus à des audiences télé en hausse, l'augmentation de nos revenus propres permet de réduire notre dépendance vis-à-vis des revenus des Jeux olympiques. Si le programme des Jeux olympiques d'été est composé d'un noyau de 25 sports principaux, 3 sports au maximum peuvent désormais s'y ajouter. Nous souhaitons toujours limiter le nombre d'épreuves, actuellement de 306 pour les Jeux olympiques d'été. Mais dans ce cadre-là, nous souhaitons donner plus de flexibilité aux sports ou épreuves qui voudraient devenir olympiques, rappelait Bach en novembre. Le CIO s'est fixé pour plafond 310 épreuves et 10 500 athlètes aux Jeux olympiques d'été et 100 épreuves et 2 900 athlètes pour ceux d'hiver. Le baseball, intensément populaire au Japon, et le softball semblent favorisés pour Tokyo après 2020, après avoir été présents en 1992 à Barcelone et en 2008 à Pékin. Mais d'autres sports frappent à la porte, comme le squash, l'escalade, le snooker, et oui, le snooker qui est un jeu de billard, ou le wushu, qui sont des arts martiaux chinois. Nous avons la volonté d'entrer au programme des Jeux olympiques, assure le vice-président de la Fédération internationale de wushu, Anthony Go. Et nous avons bon espoir que les réformes induites par l'agenda 2020 donneront une excellente chance à notre sport d'être présent aux Jeux olympiques de 2024. Si de nouvelles disciplines, plus que de nouveaux sports, veulent entrer aux Jeux d'hiver, comme le patinage synchronisé et le mass start en patinage de vitesse longue piste, l'obligation de supprimer certaines épreuves en contrepartie pour les Jeux olympiques d'été comme d'hiver semble inévitable. La suppression d'épreuves d'athlétisme est parfois évoquée, comme le 10 000 mètres ou le triple saut, et en natation, la possibilité pour certains athlètes de remporter de nombreuses médailles fait débat. Le programme de natation aux Jeux olympiques de Londres est celui qui a réalisé la plus forte audience télé, rétorque Cornel Marculescu, directeur de la Fédération internationale de natation. Grâce à ce succès, on espère au contraire augmenter le nombre d'épreuves aux Jeux, avec en natation des épreuves de 50 mètres comme au championnat du monde. En water polo féminin, nous espérons par ailleurs passer de 8 à 12 équipes. L'objectif de M. Bach de rendre le programme des Jeux olympiques plus flexible et tout en évitant l'hypertrophie semble donc loin d'être atteint. Et je vous rappelle qu'il y a eu plusieurs suggestions qui ont été faites très sérieusement comme discipline olympique, notamment le bridge, les échecs, encore qu'une partie d'échecs de très haut niveau, c'est épuisant. Donc, le bridge, les échecs, moi, je parierais pour Tokyo sur le sumo. Ça serait très impressionnant. Yes, il reste plein de temps pour des brèves, je suis heureux. Alors, je commence tout de suite en vous parlant d'Hydro-Québec, où la gouvernance fait débat. En fait, on se pose plein de questions sur la gouvernance d'Hydro-Québec après le départ de Thierry Vandal, d'administrateur, de directeur. Il reste qu'actuellement, on ne sait pas qui est le prochain PDG d'Hydro-Québec, que le conseil d'administration ne semble pas avoir prévu son remplacement dans l'immédiat, ce qui est une de ses tâches. Et il y a même des vacances sur le conseil d'administration d'Hydro-Québec. Alors, on est en droit de se demander, est-ce qu'il y a de l'eau dans le gaz entre Hydro-Québec, son conseil d'administration et l'actionnaire, qui est le gouvernement du Québec? Et, suivez bien ce dossier-là, parce que d'ici quelques semaines, quelques mois tout au plus, il risque d'y avoir des modifications majeures dans la gouvernance de la société d'État, qui est presque une société politique, parce que président d'Hydro-Québec, c'est à mi-chemin entre je gère une compagnie et je sers le public comme un morceau de l'État. Tiens, parlons de Québec, le congé fiscal aux grandes entreprises. Si vous investissez 100 millions de dollars au Québec à partir de l'étranger, vous ne payez pas d'impôts pendant les 10 premières années sur les profits de votre société. C'est une bonne nouvelle. Eh bien, sachez que Québec vient de porter ce congé fiscal à 15 ans. Ceci étant, ça pose quand même des questions intéressantes parce que pour une compagnie qui est déjà implantée chez nous, qui n'a pas ce congé fiscal, si elle voit un compétiteur de l'étranger venir s'établir dans son marché avec un congé fiscal, elle est donc moins compétitive. Alors, il est à craindre que ce type de mesure amène Québec à subventionner les entreprises qui sont déjà en place également. Déficit des régimes de retraite. Si vous étiez... Bon, vous vous rappelez tous, l'automne dernier, il y avait cette loi spéciale qui disait les régimes, les fonds de pension des municipalités sont lourdement déficitaires. Près de 4 milliards de dollars, disait le ministre, 3,9 en fait, qu'il disait. Et pour cette raison-là, on a coupé dans les droits des différents salariés, autant les retraités actuels que ceux à venir, notamment en termes d'indexation. Ces gens-là ont perdu de l'argent, ils en perdent encore aujourd'hui. Eh bien, on sait maintenant que les fonds de pension des municipalités sont moins déficitaires qu'on le pensait. Les syndicats, à l'époque, disaient qu'on était à 2,2 milliards de déficit, pas à 3,9. Eh bien, sachez que c'est 2,6 milliards. Et donc, les syndicats étaient beaucoup plus près de la réalité que le ministre qui avançait ce chiffre énorme de près de 4 milliards de dollars, probablement dans l'urgence de faire passer son projet de loi et le principe qui veut que ces fonds-là s'équilibrent et ne prennent pas de risques démesurés. Dans la catégorie « Finalement, je suis pas si gêné que ça », SNC-Lavalin. SNC-Lavalin qui s'adresse aux tribunaux pour récupérer les sommes qu'ils ont eux-mêmes versées en pot de vin pour obtenir des contrats, notamment le centre hospitalier de l'Université McGill. Et oui, ben, remarquez, ce ne sont pas les mêmes personnes qui s'adressent aux tribunaux que celles qui ont payé les pots de vin. Mais bon, ça, je me garderai une petite gêne quand même. McKinsey Global Institute, je vous parle beaucoup de cet institut-là cette semaine, a fait une étude sur l'endettement global. En fait, tout ce qui est emprunté dans le monde comme argent, autant par les gouvernements que par les particuliers, que par les entreprises, eh bien, sachez que les dettes du monde entier pèsent actuellement à peu près 200 000 milliards de dollars. C'est gigantesque. La dette publique, elle, s'est accrue de 57 000 milliards entre 2007 et 2014. Ça aussi, c'est titanesque. Ça donne le vertige. Bref, je préfère ne plus vous en parler. Et je passe immédiatement à une nouvelle plus légère. Une firme qui s'appelle... je vais le prononcer comme faux. Detective.ca. Qu'est-ce que Detective.ca? Eh bien, c'est une firme informatique qui a 6 employés. Et supposons, mettons, vous êtes le cadre d'une entreprise, voire son PDG. Vous êtes quelqu'un, donc, qui se présente bien, qui a une jolie cravate, mais qui écrit peut-être pas très bien. Vous cherchez le conjoint idéal. Bon, vous n'avez pas le temps d'aller faire ça sur les différents sites de rencontres. Eh bien, sachez que Detective le fait pour vous. On prend votre profil, on le présente à des candidates, évidemment en se faisant passer pour vous et en écrivant à votre place les messages, bref, en faisant tout le travail de défrichage avant vous, de façon à ce que, à vous décrocher un rendez-vous, puis là, ça va être à vous de jouer éventuellement. Ça existe donc, cette entreprise-là, ça embauche 6 personnes. Les affaires sont en croissance pour elle. Il y a donc une firme de sous-contractants pour vous permettre de draguer sur le net. Réchauffement de la planète, parce que ça, je ne peux pas ne pas en parler. Réchauffement de la planète, Charles Côté se demande, et dans les pages de la presse, si les plages ne sont pas en train de disparaître. Pourquoi? Parce qu'on les a protégées par des petits murs un peu partout sur la côte est de l'Amérique. Non pas pour protéger les plages, mais pour protéger les édifices qui sont derrière. Résultat, la mer arrache les plages. Vous l'entendez, l'indicatif me signale et nous signale à tous que cette émission tire déjà à sa fin. Je remercie Rémi Hermoso pour sa mise en onde. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine alors que Éric de Belval devrait...